histoire particulière. En 1920, le destin de l'américaine Amelia Earhart, 23 ans, bascule lorsque son père l'emmène dans un aéroport de Long Beach. Un vol de 10 minutes suffit à la convaincre. Elle doit apprendre à voler. En octobre 1922, elle atteint l'altitude de 4300 mètres. Jamais une aviatrice n'avait volé aussi haut. Le 20 mai 1927, Charles Lindbergh rejoint Paris depuis New York en 30 heures et 33 minutes. Amelia veut prouver à tous qu'elle est aussi capable que lui. En 1932, elle tient parole. Elle atterrit 14 heures et 56 minutes plus tard, pulvérisant au passage le record de Lindbergh. Puis, une nouvelle idée germe, faire le tour du monde en avion.
Il était vraiment nécessaire de porter des culottes et un vêtement de cuir. J'avais coupé mes cheveux, mais pas trop courts, de peur de paraître excentrique. Car une femme qui volait était quelque chose de vraiment étrange. Et j'essayais de rester au moins dans mon aspect aussi normal que possible.
Amelia Earhart, le mystère de l'avion disparu. L'appel du Pacifique, un documentaire de Lenora Krief, réalisé par Rafik Zénine.
Le vol fait quand même partie depuis toujours d'un espèce de rêve récurrent de l'humanité, qui est quelque chose d'aller dans le cosmos, d'aller vers les dieux. Il y a quelque chose de magique dans le vol et elle le représente très bien. Donc elle a dû participer, elle a dû faire réfléchir aussi parce qu'elle a disparu tragiquement. Il y a cette espèce d'esprit d'aventure qu'elle représente très bien.
L'aventure et l'indépendance. Amelia Earhart est un oiseau libre. Après le triomphe de sa traversée de l'Atlantique en 1932, elle dira humblement que ce vol n'apporte rien à l'aviation, mais qu'il représente une grande avancée pour les femmes. Cette même année, elle demande au président Hoover d'approuver un nouvel amendement concernant l'égalité des droits. Membre au National Women's Party, Amelia se bat déjà pour qu'à travail égal, les femmes reçoivent le même salaire que les hommes. Après l'Atlantique, le Pacifique, plus qu'un fantasme, c'est une obsession pour elle. Amelia Earhart ressent une attraction de plus en plus forte pour cet océan, comme un appel mystérieux auquel elle ne peut résister. Jennifer Le Sieur, comment vous la décririez physiquement, Amelia Earhart ?
Elle détonnait par rapport aux Américaines de l'époque et en même temps, elle préfigurait un peu les flappers. Vous savez, c'était les années folles. Donc déjà, les cheveux commençaient à raccourcir. Les jupes commençaient à raccourcir. On voyait de plus en plus de femmes en pantalon. Et elle a épousé cette époque de la plus belle manière parce qu'elle irradiait une très grande féminité et à la fois en imposant des nouveaux codes vestimentaires. Donc, ces blousons en cuir, ces redingotes très bien coupées, ces foulards rouges, ces chemisiers en soie, toute la panoplie d'aviateurs sur elle, avec des coupes bien sûr féminines, on produit l'effet contraire. Elle n'était plus du tout le garçon manqué de son enfance. C'était vraiment l'américaine moderne, typique des années folles, mais qui accrochait le regard. Elle ressemblait à personne.
Amelia Earhart était très engagée pour les autres femmes. C'est ce qu'elle a en commun avec, effectivement, Adrienne Bolland aussi. Elle a créé les 99.
Catherine Monory, championne française de voltige aérienne.
Elle est une icône, donc forcément elle a contribué à féminiser. Parce que pour la première fois, une femme aussi s'habille en homme, vraiment, se coupe les cheveux. Elle est, tout en étant féminine, elle ressemble à un jeune garçon. Et elle se comporte comme ça, elle s'habille comme ça. Et ça lui va très bien. Donc c'est plaisant pour les femmes parce que c'est une image de classe qu'on a envie d'imiter. Donc automatiquement, et en même temps, elle va dire, regardez, faites-le, ça vaut la peine. Ça me rend heureuse. Je fais ça, elle dit toujours, je fais ça. Je fais ça for the fun, ou je fais ça parce que j'ai envie de le faire.
Well, a ship out over the ocean, just a speck against the sky. Amelia Earhart flying sad that day.
Les aviatrices américaines ont formé leur propre club, les 99s, un nom qui correspondait au nombre de femmes ayant obtenu une licence de pilote en 1929. Amelia Earhart a été, je crois, leur première présidente. Elle était très impliquée dans cette association. Elle aimait parler aux autres femmes pilotes. Toutes avaient des histoires à raconter sur leurs difficultés rencontrées. Mais surtout, elles avaient en commun la passion de l'aviation et voulaient montrer en tant que femmes qu'elles en étaient capables. Amelia était donc très active au sein de ce groupe et je pense que cette sororité a beaucoup compté pour elle. Amelia était de loin la pilote la plus connue des États-Unis, voire du monde, et elle ne s'est jamais arrêtée d'œuvrer pour cette association.
Il s'intéressait à l'aviation. Nous aimions tous les deux les activités en plein air, les livres et le sport. Nous avons commencé à déjeuner ensemble, puis à dîner ensemble, puis à partir pour de longues balades à cheval. Je ne pouvais pas admettre que j'étais amoureuse. Mais arriva un moment, je ne sais plus quand, où je ne pouvais plus me mentir à moi-même. Je ne pouvais plus me répéter que ce que je ressentais pour George Putnam n'était que de l'amitié. Je savais que j'avais trouvé la seule personne qui pourrait me supporter.
Jennifer Le Sieur, comment George Putnam devient-il à la fois le manager puis le mari d'Amelia ?
Au début, George Putnam est juste un éditeur publicitaire prêt à exploiter au maximum l'image d'Amelia pour pousser sa célébrité et faire vendre des livres, puisqu'il lui a fait écrire assez vite un livre sur sa traversée, sa première traversée de l'Atlantique, puis la deuxième. Et pour ça, il fallait faire des tournées promotionnelles. Il l'accompagnait, ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Et il était marié, hein, je précise, à l'époque, marié, père de famille. Mais son mariage battait de l'aile. Et il passait tellement de temps avec Amelia que des rumeurs ont couru. Les rumeurs ont fini par se concrétiser. Malgré tout, Amelia était quelqu'un de très indépendant. Et la dernière chose qu'elle voulait faire, c'était de s'attacher à un mari à la cheville. Donc, le pauvre Putnam l'a demandé en mariage 5-6 fois. Et la 6e fois, elle a accepté, mais à ses conditions. Elle lui a envoyé une lettre assez réfrigérante, voilà, disant qu'elle acceptait de se marier avec lui, à condition qu'ils se sentent pas obligés d'être fidèles l'un à l'autre, qu'elle garderait son nom de jeune fille, qu'elle continuerait sa carrière, quoi qu'il décide, puisque évidemment, à l'époque, quand on se mariait, la carrière de l'épouse se terminait aussitôt. Et elle lui a fait promettre qu'au bout d'un an de mariage, s'il n'était pas heureux, ni l'un ni l'autre, il la laisserait partir. Et à toutes ces conditions, il a accepté.
Un matin d'automne, en 1934, Amelia annonce à George Putnam qu'elle veut traverser le Pacifique. Comment est-ce qu'il réagit ?
Il se frotte les mains. Quel coup de pub, génial. Voilà, il en profite pour faire une conférence de presse, alors que tout n'est pas encore prêt. Mais voilà, tous les médias sont sur le qui-vive pour poursuivre cette traversée. Et d'ailleurs, chaque fois qu'elle prévoit un grand vol, Putnam s'arrange pour lui faire écrire des comptes rendus réguliers pour les journaux. C'était aussi, les années 30, c'était l'essor de la presse illustrée aux États-Unis. Donc on était très friands de ce genre de reportage illustré.
Alors le projet de Amelia Earhart, à l'époque, c'était pas de traverser le Pacifique.
C'était traverser le...
C'était de faire le tour du monde. Et le tour du monde, ça voulait dire et le Pacifique, et l'Atlantique, et les déserts qui vont avec. Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on n'est pas sur l'eau, on est en sécurité. Quand vous traversez les déserts asiatiques, quand vous traversez les steppes russes, ou quand vous traversez les déserts africains, vous n'êtes pas non plus en sécurité, et de très loin. Lisez les romans de Saint-Exupéry, Citadelle, etc., etc. Bien sûr que c'était relativement osé. Mais d'un autre côté, on avait quand même déjà défriché pas mal de choses avec les avions. et elle possédait un avion qui était une petite merveille, hein, c'était un Lockheed Electra, modèle 10, qui était un très bon avion pour l'époque, hein.
Alors Michel Poulaco, c'est une photo où on voit justement Amelia Earhart et Fred Noonan.
Voilà, c'est une photo de leur Lockheed Electra. Donc vous voyez, c'est un bimoteur à hélice. Chacune des hélices a deux pales. Il y a des hélices à trois pales, à quatre pales. Bon, chacune des hélices a deux pales. Et là, on ne voit pas la queue de l'avion, mais quand on voit la queue de l'avion, on le reconnaît beaucoup mieux parce que c'est un avion à double dérive. C'est-à-dire qu'à l'arrière, vous avez un gouvernail de direction sur les avions. Quelquefois, vous en avez deux qui sont un peu éloignés l'un de l'autre. C'est un avion sur lequel il y a une double dérive.
Alors, je vais vous poser une question un peu naïve, mais là, Amelia Earhart et Fred Noonan, ils rentrent, on dirait qu'ils sont
debout sur l'aile.
Oui, mais ça, c'est pour rentrer dans l'avion ?
Oui, c'est pour rentrer dans l'avion, oui. Alors, on peut entrer dans l'avion par ce côté-là, ou on peut rentrer dans l'avion par une petite porte qui est à l'arrière. Hein, il y a une porte une issue de secours en fait à l'avant qui permet à l'équipage de se dégager en cas de besoin et qu'on peut utiliser aussi comme porte d'accès.
Jennifer Le Sieur, quel plan de navigation choisit Amelia pour faire ce tour du monde ?
Elle veut suivre le tour de taille de la Terre. Elle veut partir vers l'ouest en longeant l'équateur. Elle a bien sûr étudié tous les paramètres, la saison, la météo, les différentes escales. Ça a demandé un an de préparation, quand même, pour préparer son tour du monde. Et tout lui paraissait aller de soi, si ce n'était une panne au début de son tour du monde, quand elle a essayé de décoller d'Hawaï. Un pneu a éclaté, l'avion sur le quai d'Electra a basculé sur le côté. Et on lui a expliqué qu'il fallait attendre 3 mois pour des réparations complètes. Or, 3 mois, c'est une saison. Et là, tous les paramètres changent.
Il a fallu repenser tout le plan de la navigation à ce moment-là.
Alors, non seulement le plan, mais la direction. Elle a décidé de ne plus aller vers l'ouest, mais de partir vers l'est. Elle voulait absolument arriver le 4 juillet, boucler son tour du monde le 4 juillet pour la fête nationale américaine. Et ce qui fait que son emploi du temps était très serré. Il fallait qu'elle respecte un planning, comme on dit aujourd'hui, très court, au détriment d'heures de repos qui étaient aussi nécessaires à la mécanique humaine qu'à la mécanique de l'avion.
Il y a un mois à peine, j'étais sur l'autre rive du Pacifique en regardant à l'ouest. Ce soir, je regarde vers l'est du Pacifique. Au cours des jours rapides qui viennent de s'écouler, toute la largeur du monde est passée derrière nous, sauf ce grand océan. Je serai heureuse quand les hasards de la navigation seront derrière nous.
Alors quand on voit aujourd'hui la carte des trajets du Tour du Monde d'Amelia Earhart, on se dit qu'elle est plutôt bien faite, qu'elle lui permettait de poser le pied sur tous les continents, en passant par des endroits assez insolites, des endroits où parfois aucun avion n'avait jamais posé ses roues. Elle est partie d'Auckland, elle est passée par Miami, Porto Rico, le Brésil. Du Brésil, elle est allée jusqu'à Saint-Louis au Sénégal, alors cette fois encore en traversant l'Atlantique, mais c'était un vol de tout repos pour une fois. Cette nouvelle traversée, du Sénégal, elle a survolé Khartoum, l'Érythrée, l'Abyssinie, qui était à l'époque interdit à toute présence étrangère. Quand elle a survolé la mer Rouge, elle était stupéfaite de voir que la mer Rouge était bleue et que le Nil était vert. Ensuite, elle a survolé l'Arabie, l'Inde, Calcutta, Rangoon. Elle a pu faire une petite escale. Parce que la mousson était très violente à l'époque, il leur a fait lui faire demi-tour et se poser. Mais pour une fois, elle a pu profiter de cette ville qui l'a enchantée à Rangoon, parce que c'est une ville multiethnique, comme elle les aimait. Et ce qui l'a galvanisé surtout dans ces escales rapides, c'était de voir les gens, aussi bien en Afrique qu'en Inde, de voir la condition des femmes, qui n'était pas très enviable. Mais de voir l'accueil délirant qui lui était fait à peu près partout. Elle a survolé aussi Bangkok, Singapour, les volcans d'Indonésie, jusqu'à Darwin en Australie, où là, elle a commencé à accuser un peu de fatigue, Et ce qui est incroyable, c'est que les rares médecins qui sont venus les examiner à 2-3 reprises pendant ces escales ont trouvé qu'ils avaient l'air plutôt en bonne forme. Mais c'est parce qu'ils se plaignaient pas. Le 30 juin 1937, ils partent de La Haye, en Nouvelle-Guinée. Et pour des raisons qui restent inexpliquées, ils décident d'alléger l'avion au maximum et de laisser au sol leur parachute, leur code morse et leur feu de détresse. L'avion décolle, ils ont déjà bouclé 36 000 km en un mois et il leur reste 11 000 km à parcourir jusqu'à la Californie, avec une petite escale dans l'île d'Hollande, une île tellement minuscule qu'elle ne figure pas sur les cartes, mais qui servait de point de ravitaillement à l'US Navy. Donc ils partent confiants parce que le navire de l'US Navy, l'Itasca, s'est déjà posté pour faciliter leur repérage et pour communiquer avec eux, pour les aider à trouver l'île plus facilement.
Catherine Monory, d'après vous, c'était un projet déraisonnable de vouloir traverser le Pacifique à la fin des années 30 ?
Ah non, je ne crois pas que ce soit un projet déraisonnable. Ce qui était vraiment très 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 difficile, c'était de joindre ce petit confetti, cette île de Hollande, minuscule, qui est impossible à voir. Je pense que quelque chose a été peut-être un facteur extrêmement mauvais et qu'elle a pas voulu ou elle a décidé qu'elle allait continuer, c'est le premier incident à Hawaï quand il casse la jambe de train. 3 mois de réparation. 3 mois de réparation, ça veut dire la mousson a commencé, ça veut dire sur le plan météorologique ça n'a plus rien à voir. Donc ça devenait presque impossible à faire vers l'ouest. Il fallait changer de côté. Ce qu'elle a décidé de faire, sachant qu'elle terminait par la partie la plus dangereuse et la plus difficile. Et il faut pas faire cette partie-là épuisée. Il fallait attendre 6 mois ou un... Je pense que la raison serait été déjà d'attendre. Mais toujours pareil, la pression médiatique. JP a tout organisé. Il faut... On a décidé, on a dit qu'on partait, je vais pas reculer. Ça, c'est quelque chose auquel il faut résister. Elle décide, ce qui est logique aussi, d'alléger l'avion au maximum. Elle laisse une espèce d'antenne très longue et qui est une antenne qu'on peut dérouler, qui aurait pu l'aider à avoir une meilleure réception. La radio est pas terrible du tout, de l'Electra, et cette antenne radio, elle décide de la laisser. Elle ne la garde pas. Elle n'emmène pas ses cahiers de morse. Son truc, elle ne sait pas le morse par cœur. Et elle ne l'emmène pas. Donc là, il y a des grosses imprudences. Et en plus, comme ils sont partis en retard, ils ont ces problèmes, ils ont énormément de problèmes météo. Il faut se dire que un problème météo là-dedans, avec les équipements qu'elle a, c'est pas drôle du tout. Hein, quand elle est dans les orages, la mousson, elle dit on vient de se poser, flouf, une énorme pluie dans lesquelles on voit rien. Ça doit être absolument épuisant. Et en fait, 1 degré d'erreur dans la navigation, d'où ils étaient partis, là, ça représentait simplement 1 degré, ils ont peut-être eu beaucoup plus, mais simplement, ça représentait 60 km d'erreur, 67 km d'erreur. 67 km d'erreur sur une île qui fait 800 mètres de large et 3 km de long, ou quelque chose comme ça, c'est catastrophique. Alors, il y a ce bateau qui est très bien équipé, qui est à côté.
L'Itasca,
oui, l'Itasca, qui avec d'autres petits bateaux, il paraît que même une balise très bien avait été mise sur l'île, mais elle ne le savait pas, elle n'avait pas son morse, enfin bon, elle pouvait pas communiquer en morse, alors qu'ils ont tenté le morse énormément, ils n'ont pas pu imaginer qu'elle allait pas répondre en morse. Elle n'avait que quelques petites fréquences d'une radio qui marchait pas très bien. Là, partir pour trouver cette île fatiguée dans ces conditions-là, c'était de la folie furieuse.
Nous devons être au-dessus de vous, mais nous ne vous voyons pas. Je tourne dans la brume depuis des heures, je n'ai plus que 30 minutes d'essence. Je ne vois toujours pas la Terre. Et je dois être à 160 km de Hollande.
Au bout de 7 heures de vol à peu près, ils donnent leur position. Et ce sera le dernier message fixe, clair, que recevront jamais les gardes-côtes.
Puisqu'après, elle n'arrivera plus à communiquer avec l'Itasca.
Après, les messages se brouillent. On s'aperçoit assez vite, malheureusement, que l'Itasca et le Lockheed Electra fonctionnent sur des fréquences différentes. Donc, d'autres radios captent des messages très hachés, dont un dernier message vraiment inquiétant, où on entend Amélia, la voix assez tendue, répéter qu'ils tournent en rond, qu'ils sont dans le noir et qu'ils trouvent pas l'île. Et que les réservoirs se vident et qu'ils n'ont plus qu'une demi-heure de vol. De gros moyens ont été déployés pour retrouver l'épave, ou au moins retrouver les naufragés s'ils ont réussi à se poser sur une autre île. Roosevelt a débloqué 4 millions de dollars pour ses premières recherches, qui ont duré plusieurs semaines. Et ensuite, Putnam a décidé de les prolonger lui-même, en trouvant lui-même des financements, en publiant les derniers textes d'Amélia, pour pouvoir les poursuivre en privé. Et il a pu tenir aussi comme ça de longs mois. Malheureusement, ça n'a jamais rien donné.
Le mystère de la disparition du vol d'Amélia donc, a conduit notamment une association de passionnés d'archéologie aéronautique, le TIGAR, à organiser plusieurs expéditions pour tenter de retrouver l'avion disparu. Ils estiment que l'avion a pu se poser en catastrophe et survivre quelque temps sur le minuscule atoll inhabité de Niku Maroro. Qu'en pensez-vous, Michel Polacco ?
Alors, j'ai bien connu l'équipe de TIGAR. J'ai eu l'occasion de les rencontrer il y a une trentaine d'années au Bourget quand ils sont venus présenter les résultats des recherches qu'ils avaient faites sur Amelia Earhart et proposer de se lancer dans des recherches sur la disparition de Ningesser et Colli. Je dois dire qu'au début, je les ai pris plutôt au sérieux parce que j'ai eu l'impression qu'ils se donnaient vraiment du mal et qu'il y avait une véritable volonté de recherche historique. Bon, puis petit à petit, je me suis aperçu que c'était aussi des gens assez doués pour utiliser intelligemment des capitaux de sponsors qui avaient un intérêt quelque part à retrouver des traces. Alors, c'est sûr que les Américains, ils sont prêts à payer pour savoir si Amelia Earhart a été capturée par les Japonais, tuée par les Japonais, s'est écrasée sur un atoll, a disparu en mer, mais a vécu quelque temps avant sur un atoll pendant quelques semaines avec son navigateur. Donc, si vous voulez, ils ont un talent assez important pour exploiter la curiosité humaine. Moi, personnellement, ça me dérange qu'on aille fouiller la tombe de Saint-Exupéry parce que j'ai un amour immodéré pour cet auteur et pour cet aviateur. Et je me dis que s'il repose au fond de l'eau quelque part, il faut lui foutre la paix et le laisser tranquille. Bon, ben, on a retrouvé l'épave de son avion, je crois qu'il n'y a pas de doute, c'est intéressant. Voilà, bon, il n'y a pas de quoi en faire non plus, ça ne change rien à l'œuvre de Saint-Exupéry, si vous voulez, c'est la seule chose qui compte pour moi, mais c'est intéressant. Alors peut-être que eux, s'ils retrouvent l'épave de l'avion d'Amelia Earhart, ça lèvera un mystère, et on dira, bon, ben, on se disait qu'elle avait dû terminer en panne d'essence en mer, dans situation météorologique difficile, en liaison avec un bateau qui la captait mal, on aura retrouvé l'épave et... Ça, fin de l'histoire, ça bouclera l'histoire. Avec plus de certitude qu'aujourd'hui, c'est certain. Mais ça changera toujours rien à l'histoire. C'est une femme magnifique, merveilleuse. C'est une grande aventurière. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'aviation et marqué l'histoire aussi des aventures vécues par des femmes culottées, quoi. Voilà, et ça, c'est beau, quoi.
Amelia Earhart, originaire du Midwest, représente un symbole pour cette partie du pays.
Suzanne Ware.
Plusieurs musées sont consacrés à sa vie et à son héritage. Elle est également l'une des principales personnalités du National Air and Space Museum à Washington, D.C., qui est le principal musée de l'aviation et de l'aéronautique aux États-Unis. On y trouve l'avion avec lequel elle a volé en 1932. On peut le visiter et admirer un certain nombre d'objets qui lui sont associés. Elle fait donc partie intégrante de l'histoire de l'aviation. D'une certaine manière, elle fait partie également de la culture populaire. En soi, elle n'a pas besoin de musée pour qu'on se souvienne d'elle. Elle apparaît déjà dans des publicités pour les ordinateurs Apple, pour Nike et bien d'autres marques. Elle a souvent été utilisée aussi comme symbole d'indépendance et de cette philosophie du « fais-le, just do it » qui est encore très convaincante pour beaucoup d'Américains. Les musées, comme la culture populaire, vont contribuer à préserver son héritage. Bien qu'elle ait disparu il y a presque 100 ans maintenant.
C'est une histoire qui reste poignante pour beaucoup d'Américains parce qu'elle a justement cette figure qui transcende l'aviation.
Jennifer Le Sieur.
Qui transcende le féminisme. C'est devenu une figure populaire à laquelle beaucoup se sont attachés. Justement pour ce sourire, ce courage, cet air de pas s'en faire quelque part. Vous savez, ça se voit aussi sur les images, les nombreuses images filmées qu'on voit d'elle. Elle a l'air quand même un peu marquée à ses escales, mais elle sourit toujours. Elle a l'air de dire « tout va bien, les maux de ventre se muent en dysenterie, on n'a pas dormi depuis 4 jours, on commence à faire des petites erreurs d'appréciation, de pilotage, mais vous inquiétez pas, tout ira bien ». Et c'est devenu comme ça une sorte de personnage mythique. On a peine à croire qu'elle ait existé.
Catherine Monory, qu'est-ce qu'elle serait devenue d'après vous si elle n'avait pas disparu?
Alors, je ne sais pas si elle aurait continué à voler, continué à faire d'autres choses, ou si elle serait. Elle n'avait pas du tout l'âme, puisqu'elle arrivait à 40 ans, elle n'avait pas du tout l'âme de quelqu'un qui allait, comme beaucoup ont fait, même Jacqueline Cochrane, qui était très proche d'elle et tout ça, finalement, allez, on va accorder un certain nombre d'années à nos familles, et puis après, on verra. Mais je pense qu'Amelia Earhart n'était pas faite pour vieillir. Elle ne voulait pas. Personne ne veut. Aucun de nous n'a envie. Mais est-ce qu'il n'y a pas là-dedans aussi, on continue, elle aurait trouvé un autre truc qui serait mal passé. C'est entièrement personnel. Ça n'a évidemment aucune valeur, mais il me semble qu'elle n'aurait pas continué.
L'appel du Pacifique, avec Catherine Monoury, championne française de voltige aérienne et présidente de l'Aéroclub de France, Jennifer Le Sieur, journaliste et biographe, Suzanne Ware, écrivaine américaine et spécialiste des mouvements féministes aux États-Unis, Michel Polacco, journaliste et pilote professionnel. Lecture, Maïra Chouaki-Hill, doublage, Anne de Peufeyou. Prise de son, Victoria Asper. Mixage, Philippe Thibault. Coordination, Christine Bernard. Attachée d'émission, Sylvia Favre. Un documentaire de Lénora Krief, réalisé par Rafik Zénine.